La monnaie de main en main. Troisième épisode. La monnaie, le symbole, le talisman, le lien. Martine Abbat.
Le bâtiment qui abrite la monnaie de Paris a été conçu au XVIIIe siècle par l'architecte Jacques-Denis Antoine. Lorsqu'on y pénètre, on est rapidement cerné par les symboles. Il n'y a qu'à traverser la cour intérieure pour apercevoir, juste au-dessus du fronton, deux statues allégoriques. L'une représente l'abondance. Une femme tient une corne d'où s'écoulent non pas fruits et céréales, mais des pièces de monnaie. Cette corne d'abondance est d'ailleurs poinçonnée sur toutes nos pièces. L'autre statue représente la confiance. Une femme assise pose sa main sur la tête d'un chien. L'abondance et la confiance sont les maîtres mots de toute monnaie, ce que souhaite tout État qui la frappe. C'est ce que nous explique Dominique Antérion, qui est chargé de conservation des collections historiques de la monnaie de Paris. Il est à ce titre le gardien d'un trésor dont il possède les clés et la symbolique.
Nous sommes au médaillé de la monnaie. C'est-à-dire un endroit où sont mis en réserve les collections monétaires, tout ce qui est monnaie ancienne, tout ce qui est monnaie étrangère, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.
On est environné de meubles en bois avec des centaines de petits tiroirs.
Oui, il y a à peu près 2000 tiroirs. Et à l'intérieur de chacun de ces tiroirs, vous avez un ensemble en fait de monnaies qui sont classées, généralement de l'Antiquité à nos jours, la France pour commencer, et ensuite tous les pays étrangers. Donc on a, disons, une vision assez encyclopédique de l'histoire monétaire mondiale, au-delà même des seules rondelles métalliques que nous connaissons, puisqu'il y a également d'autres formes monétaires, autres que métalliques, autres que rondes et frappées comme nous les connaissons, qu'on qualifie de monnaie plus traditionnelle, que longtemps on a qualifié de paléomonnaie, ce qui n'est pas tout à fait juste dans la terminologie, mais qui tourne toujours autour de la notion d'objet d'échange. La monnaie est un objet d'échange qui permet l'échange, un intermédiaire en fait entre deux personnes qui vont finalement faire un contrat, en fait l'un voulant obtenir ce que l'autre possède déjà.
Ce qu'on constate lorsqu'on commence à s'intéresser à la monnaie, c'est à quel point ce petit objet permet de raconter l'histoire d'un pays.
Toutes les monnaies ont quelque chose à raconter. Par tous les aspects qu'on les prenne, par tous les bouts, si tant est qu'on puisse prendre une monnaie par un bout, la monnaie a quelque chose à raconter. En fait, l'objet est aussi petit que son contenu est grand. À chaque fois, on reste surpris par l'immensité des informations qui touchent au domaine monétaire. Pourquoi ? Parce que le domaine monétaire est un domaine qui est à mi-chemin entre le monde du pouvoir et le peuple. C'est le pouvoir qui le décide, mais il le décide aussi en fonction des pratiques qui sont celles du peuple, qui en est l'utilisateur. Et cet utilisateur va souvent lui apporter des pratiques qui peuvent des fois être autres que purement monétaires, d'ailleurs. Et le fait d'épargner de la monnaie, en quelque sorte, fait sortir la monnaie de son rôle d'objet d'échange, puisque vous l'épargnez, donc il ne devient plus un objet d'échange, il devient un objet de capitalisation. Donc est-ce bien son rôle ? Ça l'est devenu, peu à peu. Donc cet objet, en effet, est une sorte d'interface entre le pouvoir émetteur, le peuple qui l'utilise, et à travers cette monnaie va transparaître toute l'histoire politique du pays, toute l'histoire économique, c'est elle qui permet ensuite à des degrés autres de percevoir ce qu'est le brassage de flux d'argent et aussi de marchandises ou aussi de services au travers de l'histoire d'un pays. C'est également un objet éminemment artistique. La monnaie se situe à tous ces carrefours.
Qu'est-ce qu'on peut faire représenter sur une pièce ? Qu'est-ce qui est communément admis ?
Alors, les symboles ont une importance toute particulière sur la monnaie parce que c'est quelque chose de tout de suite perceptible, bien plus que le texte. Tout le monde n'est pas forcément capable de lire. Donc ces symboles, ils comptent. Ces symboles peuvent être des symboles religieux. On le voit par exemple sur les monnaies antiques, notamment sur les monnaies romaines par exemple, avec tout le panthéon qui défile, auquel s'associe au revers. C'est un objet qui a deux faces, donc on veut dire on peut faire passer deux messages. Il y a à la fois la question du pouvoir régnant, c'est-à-dire du pouvoir qui émet la monnaie, qui en ordonne la frappe. Alors ça peut donc être l'image de l'empereur à l'époque romaine, clairement identifiée, donc le profil est souvent la partie la plus facile pour repérer le visage de quelqu'un, plus qu'une vision de face. C'est pour ça que sur les monnaies, généralement, les portraits sont présentés de profil. Quand on est sur des régimes de nature personnelle, comme l'empereur romain, comme le roi de France, et encore, pour le roi de France, il faut attendre la Renaissance, c'est-à-dire un retour à la question de la personne. Au Moyen-Âge, le roi, il est Rex Francorum Dei Gratia, roi des Français par la grâce de Dieu. Il est un représentant, il est lieutenant de Dieu sur terre. Finalement, le fait que Philippe IV le Bel ou que Charles V ait tel visage, finalement, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, en revanche, c'est qu'il soit représenté. C'est le métier de roi, c'est la fonction de roi qui est représentée. Il doit tout y avoir. Il doit y avoir la couronne, il faut qu'il y ait le sceptre, etc. Donc voilà, selon le régime, vous allez avoir des motifs qui vont en effet varier avec la République. Alors évidemment, problème, la République, c'est qui ? C'est tout le monde. Bon, alors comme c'est tout le monde, il faut trouver quelqu'un qui nous représente. Marianne nous représente tous.
Mais d'où elle sort, cette Marianne ?
Alors cette Marianne, elle remonte à la Révolution française. Alors on dit que Marie et Anne étant les deux prénoms les plus fréquemment donnés aux Français à l'époque, notamment aux Françaises, la République est une femme. Il fallait donner en fait ces deux prénoms. Marianne, c'est tout le monde, c'est le peuple français. Et quand, avec la Troisième République, est créée la Semeuse par Oscar Rotti dans nos murs, avec le premier type frappé en 1898, c'est une Marianne qui sème. C'est pas une Marianne des villes, c'est une Marianne des champs, dans une France qui finalement était terriblement agricole, ce qui était finalement logique. Alors elle sème pas tout à fait dans le bon sens, parce que quand on regarde le sens de la robe, on se rend compte qu'elle sème dans le sens du vent. Donc en fait, tout ce qu'elle sème, elle risque de se le prendre dans la figure. Bon. Alors, ça c'est autre chose, il n'avait peut-être pas été suffisamment à la campagne. Mais le symbole, il est là, il est fort. Et d'ailleurs, c'était un renouveau total au niveau esthétique. Cette semeuse qui marche, qui est de l'avant, voilà, qui a un geste, en fait, qui est un geste populaire, finalement, qui n'a rien d'un geste noble, elle n'est pas en train de trôner comme certaines figures de la République ont pu être représentées. Donc, elle essaye de se rapprocher le plus possible de la population et elle demeure notre symbole. Il est vrai que les dernières décennies du XXe siècle et a fortiori le passage à l'euro ont un petit peu bousculé la donne par rapport aux grands poncifs habituels de la monnaie, mais qui sont nécessaires et qui ont été nécessaires pour que tout le monde sache se raccrocher à un symbole commun. La monnaie est un objet commun. Nous sommes tous à l'utiliser, même mieux, nous la refilons tous. Nous sommes là sur un tiroir qui nous renvoie à l'époque médiévale. Alors cette pièce-là, qui est absolument remarquable, c'est ce que l'on appelle un franc à cheval. C'est une monnaie qui a été frappée par un édit, l'édit de Compiègne, du 5 décembre 1360, et qui représente le roi Jean II le Bon à cheval. Et elle commémore un événement qui a été la libération de Jean le Bon, qui avait été fait prisonnier par les Anglais pendant la bataille de Poitiers, quatre ans plus tôt, en 1356. Et cette pièce, eh bien, elle porte un nom emblématique pour les Français, on l'appelle le franc. Le premier franc de l'histoire, il est ici.
Ça date donc du 14e siècle.
Oui, 14e siècle, 1360, voilà. On voit que les pièces ne sont pas non plus parfaitement rondes.
Ça se rapproche un peu.
C'est-à-dire que les souverains et la Cour des monnaies demandent à ce qu'il y ait quand même une vigilance portée sur ces monnaies, notamment pour éviter un fléau qui touche la monnaie, qui est le rognage, c'est-à-dire le fait que les gens grattent le pourtour des monnaies puisqu'il n'y a rien sur la tranche. Puisque la tranche est irrégulière, on gratte et on récupère de l'or et on amoindrit finalement la valeur intrinsèque de la pièce.
C'est-à-dire qu'on récupère et à force de récupérer, on peut obtenir quelques grammes. Pour
exactement, exactement. S'enfuir. Tout à fait. Là, on voit bien cette pièce-là a été magnifiquement rognée. Voyez-vous,
oui.
Voilà, là, il ne reste quasiment plus rien de la légende. La pièce a été littéralement rognée. Et en fait, toutes ces pratiques. de dévalorisation finalement par le peuple de la monnaie en récupérant de la matière ou toutes ces opérations de faux monnayage qui sont faites par des faussaires, c'est un crime de lèse-majesté, sauf qu'aujourd'hui c'est la majesté du peuple puisque c'est l'État souverain qui est finalement mis en cause dans cette affaire. Et il faut que toutes les affaires de faux monnayage soient très sévèrement jugées et elles l'étaient très sévèrement d'ailleurs, du faux monnayage était passible de la peine de mort, on était bouilli vivant.
Ah oui. Oui. Ah ça rigolait pas.
Bon, il y a eu des condamnations qui ont été effectives. Hein. Il y a vraiment, vraiment des hommes qui ont été bouillis. Après, je ne peux pas vous dire si on commençait à l'eau bouillante ou à l'eau froide. C'est comme le pot-au-feu, c'est chacun a sa recette. Une des définitions les plus vraies de la monnaie, c'est que la pièce de monnaie, elle valide quelque chose. Elle valide le contrat d'échange qui vous lie à votre interlocuteur en face. J'ai décidé d'acheter votre micro. Et on a décidé que c'est pour tant. C'est la valeur. Je vous donne la pièce. Voilà, c'est validé. C'est validé, c'est payé. Argent comptant. Finalement, quand vous lancez votre crêpe à la chandeleur en tenant la pièce en or, que vous balancez la crêpe par-dessus votre épaule, vous validez cet acte. Quand vous jetez une pièce dans une fontaine, vous validez le souhait que vous faites. Et pourquoi il valide ? Mais parce que c'est un objet qui précisément est validant. Parce que le pouvoir a décidé que ça valait tant. Et que ça valait tant à la date qui figure sur la pièce. Qu'est-ce qu'on a de plus courant, de plus usuel et de plus contractualisant sur nous que la pièce de monnaie ?
La monnaie est donc un objet rempli de symboles et utilisé comme un symbole. Fabriquée à l'origine en Occident avec des métaux précieux tels que l'or, métal mythique s'il en est, qui nous rapproche du soleil, nous avons eu envie de savoir quel lien la monnaie et plus largement l'argent entretiennent avec la croyance et la foi. Camille Riquier est philosophe de la croyance et il s'intéresse à l'argent dans ses recherches.
Après la découverte de l'Amérique, voilà, ça a été un afflux massif d'or et d'argent en Europe. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a progressivement fuité vers l'Orient, pour finir par la route de la soie, et au fond...
Vers l'Asie,
pour pouvoir faire ses échanges. Et en un sens, parce que c'était des pays qui ne se faisaient pas confiance. Et d'une certaine manière, deux religions différentes... Eh bien là, il n'y a que l'or et l'argent qui comptent.
Qui peut mettre tout le monde d'accord.
Voilà, c'est vraiment un tien vaut mieux que du tout l'aura. Ça veut dire que je préfère cet argent sûr qui a une certaine valeur en elle-même parce que je ne fais pas confiance à la personne. Ce qui fait que la monnaie peut être réellement fiduciaire qu'au sein de communautés qui se font confiance et qui ont le même référentiel et qui supposent. Alors maintenant beaucoup moins parce qu'on est dans une société athée, mais au fond, une foi commune. Il y a Georges Simmel qui a écrit un livre qui s'appelle « Philosophie de l'argent » qui est paru début du XXe siècle. C'est un sociologue et qui a vraiment étudié le rapport de la monnaie, de l'argent et de la religion aussi. Il montrait qu'effectivement, il y avait une affinité entre ce désir d'argent et la vie religieuse. Parce que l'argent, c'est un équivalent universel. C'est-à-dire que c'est un moyen absolu, puisque par l'argent, on peut acheter toute chose. Eh bien, il y a quelque chose, si je puis dire, qui fait que l'argent peut devenir une fin en soi. Il contient en lui comme un désir d'infini. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une sorte de similitude assez dangereuse entre la vie religieuse et la soif d'argent, puisque d'une certaine manière, il y avait cette quête d'infini d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que la religion s'est toujours méfiée de l'argent, puisque c'était un concurrent sérieux. Parce que c'est quelque chose comme un infini qu'on recherche, qui peut être soit Dieu, soit quelque chose comme un équivalent, et qui serait l'argent lui-même, qui a beaucoup de similitudes, à bien y penser, avec Dieu.
Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une forme de réalisation de soi-même par l'argent, comme on pourrait l'espérer par la foi aussi ?
Oui, c'est évidemment une recherche par ce moyen d'un apaisement, d'une quiétude, d'une sérénité, en tout cas autant de, d'états recherchés dans la vie religieuse. Et on remarquera d'ailleurs que quand un pays est moins religieux, plus il peut, si je puis dire, trouver dans la quête d'argent un substitut. D'une certaine manière, chacun à sa manière, poursuit quelque chose qui a des similitudes quant au sentiment visé.
Alors, la transcendance
peut-être, oui. Peut-être qu'avec l'argent, c'est une transcendance biaisée, voyez.
À l'heure.
Mais par exemple, Marx disait de l'argent que c'était la grande prostituée universelle, puisqu'elle s'échange avec tout, on la troque avec tout. Et je ferai remarquer que Baudelaire disait de Dieu que c'était aussi la grande prostituée, parce qu'elle aime tout le monde, elle veut être avec tout le monde, etc. Donc évidemment, il y a quelque chose d'universel dans les deux qui fait qu'au fond, l'argent, c'était aussi le dieu des modernes. À défaut d'un dieu transcendant, il y avait celui-ci qui pouvait servir de substitut.
Croire dans ce bout de papier ou ce bout de métal, donc c'est une émanation de l'État, ça veut dire qu'on pense que l'État et ceux qui constituent un pays, une nation, son histoire, ses forces de travail, d'intelligence, sont capables d'assurer l'avenir. Quand on croit à une monnaie, on croit à tout ça.
Oui, à mon avis, enfin en tout cas, oui, ça engage toute une dimension de foi, alors après, qui peut s'entendre de façon profane. Mais avoir foi, c'est aussi avoir foi en l'avenir. C'est pas pour rien que crédit, croyance, c'est la même chose. C'est-à-dire que je fais aussi un crédit sur l'avenir. Quand on contracte une dette, c'est toujours dans l'idée aussi qu'elle nous sera restituée au centuple. Dans le capitalisme, c'est simplement dire un peu la même chose. Toutes les dettes qu'on contracte nous seront restituées non pas dans la vie éternelle, mais dans l'avenir. D'où la croyance au progrès. Ça veut dire que même là, tous les sacrifices qu'on fait, ou les dettes qu'on contracte, d'une certaine manière, c'est ce qu'on doit espérer. Et c'est pour ça que ça suppose foi et espérance. Ce sera pour le mieux et que, d'une certaine manière, ça profitera à nos enfants au centuple.
La monnaie et sa fabrication a laissé des traces dans notre parler et nos expressions. Écoutez donc. Connaissez-vous l'expression « Ah, ça c'est du flan » ou « se retrouver comme deux ronds de flan » Mais savez-vous que le flan ici n'est pas le flan en caramel? Non, c'est une rondelle de métal. Dans l'univers d'une monnaie, avant de la frapper, eh bien, une monnaie est un flan, c'est-à-dire une simple rondelle découpée qui ne comporte aucun motif ni sur le côté face ni sur le côté pile. Et donc, à ce stade, un flan, eh bien, c'est du flan. Ah oui, ben, vous êtes comme de ronds de flan, j'imagine. Quand on ne comprend pas une situation, eh bien, l'on écarquille les yeux et les yeux deviennent ronds comme des flans, comme ces fameuses rondelles appelées flans qui sont ensuite frappées et c'est la frappe précisément qui leur donne une valeur. À ce moment-là, le flan est frappé et n'est plus du flan. Donc, quand vous dites « c'est du flan », ça ne vaut pas grand-chose. C'est quelque chose qui n'est pas de grande valeur. C'est du flan.
La monnaie, de main en main. Un podcast du Monde avec la Monnaie de Paris, une production Wave Audio.